Le TNB inaugure une nouvelle série de rencontres. Joëlle Gaillot, journaliste et collaboratrice du TNB, invite un ou une artiste ou spécialiste de l'art à interroger l'histoire esthétique, humaine, politique et sociétale des créations présentées au TNB afin de constituer une encyclopédie du théâtre. 16 décembre 2022, du roman au théâtre. Pourquoi certains artistes délaissent-ils les pièces des dramaturges au profit de romans que rien ne destine a priori à la scène? Pour en parler, Joëlle Gaillot recevait Marie-Christine Soma et Joël Chambon au TNB.
La soirée va être consacrée à cette étrange patte de deux qui existe entre le théâtre et le roman. C'est un rapport qui est compliqué, qui n'est pas forcément un rapport de domination, qui est plutôt un rapport d'hybridation, en tout cas un partenariat, une collaboration qui s'établit entre la scène et la matière textuelle. Ce qui nous a donné envie de parler de ça dans cette seconde encyclopédie, c'est un spectacle que vous allez très bientôt voir au mois de janvier, ici à Rennes. C'est le spectacle de Marie-Christine Soma, qui se trouve à ma droite, qui a travaillé sur une partie, la dernière en l'occurrence, du roman de Tristan Garcia, très très long roman. Et elle en a fait un spectacle qui dure 2 heures et quelques avec un unique comédien, Pierre-François Garel, et qui est un spectacle tout à fait remarquable, qui s'appelle La Septième. À ses côtés, Joël Chambon nous a rejoint. Joël Chambon est normalienne, agrégée de lettres modernes, ex-maître de conférences à l'université. Et vous avez coordonné, Joël, un ouvrage collectif intitulé « Après le vieux jeu, la fiction dans le théâtre contemporain », dans lequel...
Non, c'est pas un ouvrage collectif. Vraiment un recueil d'essais personnels.
Ah, pardon. Ah, je suis allée directement au chapitre que vous m'aviez indiqué. Donc,
c'est pas grave.
J'ai dû voir passer, pardon.
C'est pas grave.
Je vous le réattribue complètement. Donc, il y a à l'intérieur un long chapitre que vous avez consacré aux relations entre théâtre et roman. Et votre analyse s'ouvre par un constat qui est que, je voudrais qu'on démarre par ça, comme ça sera dit. Le théâtre s'emploie sur scène, le texte de théâtre ne serait pas considéré comme de la littérature. Ce qui paraît assez aberrant, ce qui date visiblement de Samuel Beckett. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, selon vous ?
Je pense qu'il y a probablement tout un faisceau de raisons. Le fait de le dater de Samuel Beckett est peut-être pas tout à fait insignifiant. Après tout, Beckett a beaucoup voulu écrire autrement, à partir du silence, à partir de ce qu'on n'arrive pas à dire, contre une certaine maîtrise. Le choix du français, par exemple, c'était le choix de la non-maîtrise. C'est une écriture de voix aussi, beaucoup plus que d'image ou de syntaxe. Et peut-être que dans tout cela, il a été prophétique, ou enfin la littérature après lui, en tout cas la littérature théâtrale, a probablement continué sur une lancée beckettienne, en tout cas dans une certaine mesure, jusqu'à ce qu'il y ait, en France en tout cas, une sorte de réaction ou de ressurgissement d'une langue de théâtre très, très lyrique, très, très construite, etc., qui était celle de Bernard-Marie Koltès. Mais c'est vrai que peut-être, alors c'est une parmi de multiples raisons, je pense que je n'ai pas d'hypothèse valide là-dessus, mais je pense qu'il doit y avoir des raisons à la fois, peut-être de cet ordre-là, poétique, mais aussi des raisons qui tiennent au milieu, à l'évolution du milieu théâtral, au fait que le milieu théâtral est devenu dominé quand même très largement par la figure du metteur en scène, et que donc ça redoublait en quelque sorte cette éventuelle destitution du prestige de l'auteur de théâtre, en tout cas, à laquelle Beckett sans doute a contribué, oui, je pense, malgré tout.
D'ailleurs, on voit très concrètement dans toutes les librairies que le théâtre n'est pas considéré comme de la littérature, puisque comme la poésie, il est sur des rayonnages à part, ce dont se plaignent d'ailleurs les auteurs de théâtre. Mais ça m'amène à une autre question que je vous pose, Marie-Christine Soma. Pourquoi aller vers un roman et ne pas aller vers une pièce de théâtre?
Je ne le sais pas, profondément, je ne le sais pas pourquoi. Ça s'est fait comme ça, en fait. C'est-à-dire que je crois, et j'ai réfléchi avant de venir ici, parce que je me suis dit qu'il fallait que j'y pense, je crois que, en fait, moi, je suis venue au théâtre au départ parce que c'est les livres qui m'ont amenée au théâtre. C'est la littérature. C'est dans l'enfance, la littérature est la chose qui a le plus compté pour moi. Et quand il a fallu trouver un chemin dans la vie, j'ai cherché un endroit qui pouvait me mettre en rapport avec la littérature. Et ça a été le théâtre. Donc ça, déjà, j'ai travaillé au théâtre. Et en plus, au départ, comme j'étais créatrice, enfin, j'ai fait de la lumière. Donc un métier qui n'a rien à voir avec la littérature, mais qui a à voir avec la technique. Mais c'était en lectrice que je suis rentrée dans le théâtre. Parce que le théâtre était l'endroit où on pouvait vivre toute la journée avec les mots. Mais je pense que ça reste, quelque chose reste de cette énergie première qui était l'amour de la littérature. Et autant j'ai travaillé en collaboration, en faisant de la lumière ou en collaborant avec d'autres metteurs en scène ou même en co-mettant en scène sur du théâtre, et j'aime le faire. Mais quand je me suis dit que j'avais un petit peu la force et l'envie de moi-même dessiner un projet, des projets personnels sur le plateau, ben c'est comme si j'étais revenue à mes premières amours, on va dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a ébranlé le plus dans la vie? Ben, c'est le roman, d'une certaine manière, ou le récit. Et d'une certaine façon, la force qu'il a fallu trouver... pour dire « je mets en scène », c'est le roman qui m'a aidée. Ça s'est fait ensemble. C'est-à-dire le courage de dire « moi aussi, je vais passer à la mise en scène », c'est parce qu'il y a des grands récits, des grands romans, que j'y suis allée, en fait. Parce que peut-être ils me portent plus que le texte proprement théâtral. Et l'autre chose, qui est aussi, je pense, une grande donnée, c'est que le roman, c'est plein. C'est un grand plein. Plein de thématiques, plein de personnages, un langage très développé, parfois complexe. Il y a des tas de sortes d'écritures de romanesques. Et que adapter, parce que ça part de là, j'adapte un roman pour le théâtre, et que ce plein... Il faut que j'arrive à le vider pour amener au théâtre. On travaille pour que les acteurs développent de l'imaginaire. Il faut qu'il y ait du vide. Il faut qu'ils puissent développer leur imaginaire. Donc je pars dans un texte qui est très plein et je le creuse. Je cherche le vide dedans. Et un texte de théâtre, c'est le mouvement inverse. Surtout avec la littérature théâtrale, disons. Dans lesquels moi j'ai beaucoup vécu, c'est-à-dire l'écriture contemporaine. Ce sont des textes partant de Beckett, c'est-à-dire beaucoup de silence, beaucoup de trous, beaucoup de blanc, des phrases courtes, des phrases... et on remplit d'une certaine manière avec l'imaginaire théâtral, le corps des acteurs, la dramaturgie qu'on invente par rapport à ce texte. Et je pense que ce mouvement-là m'est moins familier ou moins proche. Et que j'aime foncièrement partir d'un trop-plein et le vider pour imaginer la présence, la présence des corps sur scène et tout l'imaginaire que nous allons apporter dans le travail théâtral. Et ça, je pense, c'est presque la donnée principale, parce que partir d'un roman, c'est-à-dire c'est 2 ans de travail à peu près sur tout ce que j'ai fait. Pour amener le manuscrit qui, au jour des répétitions, va être le point de départ. Et dans ces 2 ans de travail, au fur et à mesure, c'est comme creuser, enlever, excaver, et pour ne garder que la moelle. et ouvrir toutes les possibilités des états de présence du plateau qui sont particulières, particuliers, pardon. Voilà, je dirais que c'est les deux choses, comme quelque chose qui vient de l'enfance et du fait d'avoir été sauvé par les livres, et en même temps, ce mouvement d'aller vers, d'enlever, en fait. D'enlever tout en restant fidèle.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Marie-Christine Soma, parce que là, vous parlez de l'action de la metteuse en scène que vous êtes et de la lectrice. Mais si on imagine, par exemple, que la littérature est un organisme vivant, est-ce que le théâtre est un organisme à l'intérieur de l'organisme? Et inversement, est-ce que la littérature est un organisme à l'intérieur de l'organisme qu'est le théâtre, Joëlle Chambon? Vous parlez par exemple de Daniel Danis dans ce texte que vous avez écrit. Vous dites que Daniel Danis, qui est un auteur québécois qu'on a beaucoup vu jouer sur les scènes, notamment du Théâtre de la Colline, voici maintenant 10-15 ans, a écrit un texte qui est presque un palimpseste d'un roman de Virginia Woolf.
Palimpseste par hasard, je dirais. C'est ça qui est beau, c'est que c'est une rencontre qui n'est pas prévue, puisque lui-même n'avait pas lu le texte de Virginia Woolf. Mais en effet, il écrit sous forme de vague et il construit son texte un peu comme Virginia Woolf a construit les vagues, mais sans avoir lu Virginia Woolf. Donc c'est pour ça que la rencontre me paraissait d'autant plus extraordinaire. Mais moi, ce que vient de dire Marie-Christine Soma, que je trouve aussi très 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 beau et très juste, m'évoque autre chose, c'est-à-dire m'évoque aussi le rapport avec le répertoire, parce que, comme vous l'avez dit, Marie-Christine, c'est le théâtre contemporain qu'il faut remplir. Après, il y a le texte de répertoire qui, lui, est très, très plein, est terriblement plein comme langue, et qui est en plus plein de toute l'histoire des mises en scène qui ont précédé, etc. Et moi, ce que vous disiez me faisait penser à une autre chose dont je parlais et qui me semblait une tendance du théâtre, en tout cas de certaines mises en scène contemporaines, qui consistait justement à faire des trous, peut-être, pour reprendre votre expression, dans certaines œuvres du répertoire, certaines œuvres hyper canoniques, à faire des trous pour créer du jeu. Et c'est ce que j'appelle le théâtre qui se met en face de la littérature, comme par exemple Milo Rao qui fait au reste
à
Mossoul, ou bien Chichi Pop qui réécrit le Roi Lear avec ses propres pères sur scène, ou encore, comme là on revient au roman, parce que en fait littérature c'est aussi le théâtre canonique qui est de la littérature, mais là, dans le cas de Thiago Rodriguez, par exemple, dans son spectacle Bovary, ou dans son spectacle The Way She Dies, sa façon de mourir, il prend soit Madame Bovary, soit Anna Karénine, des espèces de monuments, là aussi, très très pleins, et il va les creuser de questions qui sont des questions extrêmement personnelles. Comment un couple d'aujourd'hui vit l'adultère, par exemple, à propos d'Anna Karénine, ou à propos de Madame Bovary, comment, qu'est-ce que c'est qui nous choque encore, qu'est-ce que c'est que subir la séduction d'un personnage de roman. Là, on en vient justement à des choses très, très intimes dans ce qui concerne le rapport du lecteur de roman au personnage de roman. Et ce que je veux dire, c'est que ce mouvement de creuser me paraît éclairer aussi très bien une certaine attitude de certains metteurs en scène à l'égard du canon théâtral, qui lui aussi finalement est quand même très pesant. On est un peu sorti de l'époque où on proposait une lecture politique de telle ou telle comédie de Molière ou tragédie de Shakespeare, et on a envie de que les creux soient plus voyants et que le dialogue soit plus actif, j'ai l'impression, dans ce type de démarche que la réflexion de Marie-Christine évoque.
Est-ce que cette irruption quand même du récit, du roman sur la scène du théâtre que vous avez décidé d'adopter, Marie-Christine, mais vous n'êtes pas la seule. On pourrait parler de Julien Gosselin, on pourrait parler de Sylvain Creusevaux. On va évidemment citer Christiane Loupa, qui est quand même un des grands maîtres en la matière. C'est une façon de faire surgir des intériorités, c'est-à-dire de travailler sur les intériorités. Plus, sans doute, que ne le permettrait une pièce de théâtre au sens classique du terme. Est-ce que dans sa chair même, le roman permet justement d'entrer dans les subjectivités, de développer de l'intime de manière un peu différente? Et en tout cas, vous vous y retrouvez davantage?
Ben, oui, moi je dirais oui. Je dirais que il y a une matière qui, touchant intimement, permet tout un travail sur l'intime. C'est-à-dire, comme c'est... Enfin, je ne sais pas, quand on lit, on est absorbé, on est pénétré, on est parfois bouleversé, parfois on n'arrive pas à lâcher un roman, on habite, on vit avec les personnages, il y a quelque chose comme une infusion qui est très profonde, et j'ai l'impression qu'on peut, à force, pénétrer des intériorités. Et comme l'intériorité est par ailleurs, pour moi par exemple, le sujet du travail théâtral, c'est-à-dire de comment on peut chaque soir au présent être dans un état à la fois ouvert, offert et pourtant profondément intérieur pour l'acteur, c'est pour moi c'est un grand acteur, c'est quelqu'un qui travaille sur les deux terrains, c'est-à-dire l'espèce de lâcher prise et d'ouverture absolue, et en même temps quelque chose qui est toujours, c'est toujours tourné vers lui-même quelque part, c'est un double, comme un double mouvement en fait, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc peut-être que dans le roman, il me semble, encore une fois, c'est que mon travail, hein, et je ne peux pas le généraliser, mais de trouver les pistes pour travailler là-dessus, c'est-à-dire pour toucher peut-être plus facilement la notion d'intériorité.
Mais est-ce que le roman ne permet pas aussi au metteur en scène ou à la metteuse en scène de décider de ce qu'il va suivre à l'intérieur ? C'est-à-dire, il va suivre un narrateur, il va suivre un paysage, il va suivre une action. Donc il a tout à coup à sa disposition un terrain de jeu incroyable. Je pense que par exemple, Julien Gosselin, quand il met en scène des textes de Roberto Bolaño, ne fait pas du tout le travail que vous faites, Marie-Christine Soma, quand vous mettez en scène la septième. Il entre dans le roman de Bolaño de plusieurs manières et il suit des pistes. Vous suivez une piste qui est celle de ce narrateur qui va revivre plusieurs fois.
Pour ce spectacle-là. Mais sur d'autres spectacles, oui. c'était pas le cas. Mais c'est à la fois différent ce que fait Julien Gosselin, mais en même temps... l'histoire de, enfin, le fait qu'on est comme dans un grand jardin dans lequel on peut puiser énormément de pistes, c'est, je pense, la base. C'est parce qu'on est enfin, en plus Bolaño, pour parler de lui, voilà, c'est une immensité. On n'arrivera jamais à bout de Bolaño. Et tout ce champ d'expérience, c'est quand même. Enfin, je ne connais pas, moi je n'ai jamais discuté avec Julien Gosselin, mais il me semble que je peux comprendre pourquoi il va vers ces territoires tellement vastes, et dans lesquels il peut choisir la piste qu'il veut.
Joël Chambon ?
Oui, je crois que c'est Loupa qui disait que lui choisissait les romans, enfin il avait envie de monter des romans parce qu'il trouvait que les dramaturges pensaient plus au théâtre qu'à la vie. Et que aussi ce monde qui devenait de plus en plus complexe et immense finalement, et en tout cas complexe, il y trouvait sa voie par le roman beaucoup plus que par le théâtre. Mais j'avais envie de revenir sur la question de l'intériorité parce que c'est une des choses que certains poéticiens ont désigné comme la différence ultime entre roman et théâtre, en disant que finalement le théâtre n'avait pas accès à l'intériorité. Et on peut dire qu'en même temps, toute l'histoire du théâtre récent, elle a essayé de contredire ce jugement. Et je crois que malgré tout, il reste une vérité là-dedans, au sens peut-être pas tant de ce qu'on peut dire, du contenu de ce qu'on peut dire, mais de la façon dont la voix dans un roman, la voix du narrateur, la voix de l'écrivain, peut devenir notre propre voix, dans la façon dont on peut se l'approprier. Et ça, il me semble qu'au théâtre, ça peut arriver parfois avec certains grands acteurs qui, en effet, nous emportent, nous entraînent avec eux presque dans leur propre, dans cet équilibre que vous décriviez tout à l'heure entre intérieur et extérieur, et on peut arriver par moment à être avec eux dans cette sensibilité très très délicate, mais c'est pas tout le temps. Et alors que avec un roman qu'on aime, en tout cas, on est complètement cette voix devient la nôtre, quoi. Et ça, c'est
le plaisir ultime.
C'est le plaisir ultime.
Mais Loupa, puisque vous en parlez, dit, et c'est vous qui le rappelez d'ailleurs dans le texte que vous avez écrit, que le théâtre, en tout cas la mise en scène, peut des choses que ne peut pas la littérature. La mise en scène, pas le texte de théâtre. Et il dit qu'il y a des zones que la littérature ne parvient pas à atteindre, alors que la mise en scène, elle, va les atteindre, ces zones-là.
Oui, en effet. Alors c'est vrai que Loupa à la fois dit je ne me satisfais pas du texte de théâtre, et en même temps il dit le théâtre peut faire résonner dans un texte des choses que l'écrit n'est pas arrivé à faire résonner. Et ça, c'est un long travail qui est un peu le travail qu'il décrit. Enfin, il le décrit sous le terme de acte parasite. En gros, il dit le théâtre est comme un organisme qui se, pour le coup, on retrouve l'histoire de l'organisme qui
une
se
sorte de
colle tout à fait, un petit ou une petite bactérie qui se colle au corps écrit et qui va là aussi creuser son chemin. Alors en général, c'est sous forme d'un long travail de maturation, de d'imagination de chaque comédien confronté à chaque personnage, ou enfin confronté chacun plus exactement à son personnage, puis par un travail d'improvisation, puis par un travail qui est une sorte de collectif d'improvisation qui est guidé par Loupa, souvent sous forme musicale, comme une sorte de rêve éveillé à plusieurs. Et de tout ça va sortir ce qu'il appelle une scène apocryphe, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été écrit par l'auteur, mais qui en même temps, tout d'un coup, éclaire le texte d'une façon magnifique. Enfin, deux exemples sont particulièrement beaux pour moi. C'est dans le spectacle d'après le roman « Perturbation » de Thomas Bernhardt. Il a créé de toutes pièces dans ce roman, qui est un roman très masculin, parce que la parole est entièrement monopolisée par un homme, une figure de prophète, prophète pessimiste, comme il en a la spécialité. Dans ce roman uniquement masculin, donc, il va créer une scène que avec des femmes. Des femmes qui sont présentes dans le roman, mais de façon complètement périphérique. Et en fait, cette scène, avec deux fois deux femmes, va en quelque sorte offrir une sorte de négatif de la parole masculine qu'on entend, enfin dont on entend d'autant mieux le poids et l'oppression et la folie, je dirais. Et puis dans le procès, cette scène, donc le procès, ce qui est un spectacle de 2018, cette scène où tous les personnages vont se mettre en quelque sorte à pourchasser le personnage de Franz Kafka, l'insulter, s'indigner de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. Bref, exprimer une espèce de colère contre l'auteur que, d'une certaine façon, je pense, Lupa partage et qui est l'autre face aussi de son admiration évidente pour Kafka.
D'ailleurs, il n'y a pas tellement de hasard parce que Lupa fait travailler ses comédiens sur des monologues intérieurs, leur demande effectivement d'inventer des vies à eux pour nourrir ce qu'ils vont être sur le plateau. Et il se trouve que l'acteur que vous dirigez dans La Septième, Pierre-François Garrel, a travaillé avec Lupa. Et donc, cette aptitude, cette formation, cette sensibilisation au monologue intérieur, il la connaît. Pierre-François Garrel, qui est un comédien exceptionnel, comme on n'en croise pas beaucoup. Mais alors, pour le coup, est-ce qu'il a, travaillant La Septième, cette partie-là avec vous et votre adaptation, ce roman de Tristan Garcia, est-ce qu'il a eu besoin de recourir à cette méthode de Christiane Lupa qui est la fabrication de son monologue intérieur?
Je ne peux pas répondre pour lui, il n'est pas là. Je ne crois pas qu'il a travaillé exactement comme ça. C'était, ça s'est fait sûrement d'une autre manière. C'est-à-dire, c'était la première fois qu'il faisait un si grand monologue. Et il a vécu avec ce personnage pendant plus de 6 mois avant même qu'on commence à travailler sur le plateau. Et je pense qu'il y a quelque chose de sa vie qui a infusé, enfin le personnage a infusé dans sa vie et lui-même lui a donné sa vie. Parce que l'apprentissage du texte était tellement compliqué, tellement difficile, c'est 2h10 seul, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc peut-être que d'une certaine manière, il se sert, enfin je pense un acteur, toutes les techniques qu'il a rencontrées, et en plus Pierre-François a évidemment énormément d'admiration, et il a travaillé tout jeune avec Lupa, donc c'était une rencontre fondamentale pour lui. Donc certainement ça existe dans sa pratique, mais on n'en a jamais parlé de cette manière-là. On avait, au début du travail, on avait relu quelques trucs de Lupa dans son bouquin, comme ça, pour. Parce que de toute façon, ça fait partie des gens sous lesquels, enfin, sous l'œil duquel il me semble, pour moi en tout cas, le travail, enfin, mon travail, aussi humble soit-il, n'est pas là, du tout le même, à la même envergure que celui de Lupa. Mais pour moi, ça fait partie des metteurs en scène dont la pratique, ce qu'ils ont écrit sur leur pratique ou les spectacles que j'ai vus m'habitent. Donc ça reste, c'est présent comme d'autres, comme bizarrement, je sais pas, Claude Régis m'habite alors que je fais pas du tout du théâtre. Mais voilà, il y a une façon de chercher la voie. C'est où, parce que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on a cherché la voix du personnage, de ce narrateur qui parle tout seul comme ça. Et la voix, on cherche la voix de celui qui a écrit. Et ça fait partie de, même si on n'y arrive pas parfaitement, ça fait quand même partie de, il me semble, de la chose qui m'importe. C'est-à-dire, on cherche une voix, un corps, un esprit, un cœur, un être qui, à un moment de sa vie, a produit cette écriture. Et je pense que, par exemple, pour moi, quand je vois les spectacles qu'a fait Lupa sur Thomas Bernhard, par exemple, j'entends la voix de Bernhard. Quoi qu'il arrive, c'est comme si là, beaucoup de gens s'y sont essayés, mais chez lui, c'est comme si on entendait la voix et le corps qui ont été à l'œuvre au moment de l'écriture. Bon, mais moi, modestement, je cherche ça. Et dans le travail Pierre-François, avec cette infusion très très longue, on a cherché ça. Le corps et le corps et l'être de. Je l'ai fait pour tout, mais je l'ai fait pour Clarice Lispector, je l'ai fait pour Daniel Colaubert. Enfin, chaque fois que j'ai travaillé sur un texte, j'essaye de trouver, d'entendre et que les acteurs travaillent avec moi à ça, à faire entendre le corps qui a à un moment vécu et écrit.
D'ailleurs, vous parlez de Régis, mais Claude Régis, ses derniers spectacles, c'était pas du théâtre. C'était, oui. C'était des récits de Trinkle. Oui. Et il n'allait plus du tout vers le théâtre. Non, Claude Régis, il avait renoncé. Même si c'était trois pages trois pages sur lesquelles il prenait évidemment le temps qu'il savait prendre, si bien prendre, mais c'était pas du théâtre. Est-ce que vous avez l'impression, Joël Chambon, vous qui avez sillonné quand même toutes ces aventures artistiques, que ça génère un acteur ou une actrice particulière, ce type d'aventure-là, qui souvent se traduit par de très longues durées aussi de représentation. C'est souvent des longs spectacles. Parce que ça permet ça aussi, l'introduction du roman sur la scène du théâtre, ça permet des longues durées, des
c'est
épopées.
Vrai. Oui, oui, oui. Je pense que, d'une manière générale, et peut-être depuis très longtemps, au fond, puisque comme on le disait au début, le compagnonnage du théâtre et du roman, il est de très longue date, au fond. Et probablement que dans la plupart des cas, le caractère romanesque, disons, du théâtre, ça va dans le sens d'une liberté de l'acteur, au sens où, d'abord, ça a été une liberté de jouer des lieux, des temps très divers, des aventures absolument abracadabrantes. Là, je pense à des choses très anciennes, comme le théâtre préclassique, qui était un théâtre très aventureux, pas très réglé, et pas très, probablement assez, qui nous paraîtrait très barbare. Mais ensuite, quand ça ressurgit, je dirais, que ce soit avec Diderot, que ce soit avec les naturalistes ou avec Brecht, ça a toujours été lié quand même à une nouvelle façon d'être acteur. Qu'on pense à Zola, quand il se dit « il faut qu'au théâtre, on aille aussi loin dans la vérité que dans le roman », ça veut dire « il faut que les acteurs arrêtent de fixer le public comme des, de se mettre face à lui comme des piquets pour réciter, qu'ils n'hésitent pas à s'adresser à leurs interlocuteurs, à tourner le dos, etc. » Quand Brecht propose à ses comédiens de faire des exercices de narration, c'est aussi pour explorer cette liberté d'entrer et de sortir du personnage, d'être à la fois conteur ou raconteur et personnage par moment. Et je dirais, évidemment, quand Vitesse monte Catherine, c'est aussi une façon...
Après Aragon, donc, les cloches de bal.
Voilà, quand il monte Catherine, d'après les cloches de bal d'Aragon, c'est aussi une façon de réinventer une liberté... on démarre comme des copains autour d'une table, ce qu'on est, on part de la réalité, et puis on se met à lire le texte, et par moment, on est tel personnage, on est Catherine, donc l'héroïne des cloches de bal, et puis on peut redevenir aussi Nada Strancar parlant avec son maître Antoine Vitesse. Et ça va toujours, il me semble, avec en tout cas une recherche de liberté, et peut-être une recherche d'ouvrir l'éventail des possibles de l'acteur.
C'était en 75, je crois, 75, au Festival d'Avignon. Ouais. On a d'ailleurs dit qu'il avait inventé le théâtre récit. Mmh. On lui doit à ce moment-là cette fameuse phrase « on peut faire théâtre de tout », Antoine Vitesse, effectivement. Mais justement, sur le statut de l'acteur, et le déploiement de l'acteur dans ces aventures-là, Marie-Christine Soma, dans la septième, Pierre-François Garrel, il est à la fois acteur, il est à la fois personnage, il est donc le héros, il est aussi narrateur, donc il devient aussi auteur, d'une certaine façon. Il y a une totalité. Finalement, on n'arrête pas de parler de plein et de vide, mais lui aussi, il est dans une forme de totalité.
À partir du moment où, moi je suis tout à fait d'accord sur, c'est vraiment presque une des choses fondamentales, savoir la distance en fait. C'est comment un acteur circule entre, pour ma génération, c'était comment faire pour sortir de l'incarnation classique, on va dire. Donc on a petit à petit appris à comprendre qu'est-ce que c'est de pouvoir aller et venir autour d'un personnage. C'est-à-dire ne jamais être complètement le personnage, mais être toujours un peu autre chose, avoir d'autres places. Et c'est vrai que dans ce travail-là, d'une certaine manière, il est l'auteur, il est le personnage, il est Pierre-François Garrel en train de jouer devant des publics chaque soir différents et auxquels il peut parler quasi directement. Et il n'est jamais... En fait, on a essayé de trouver un endroit où on n'est jamais... On n'est jamais enfermé dans aucune position. Quand il faut, c'est très incarné. Et la seconde d'après, ça peut se libérer de l'incarnation et être dans quelque chose qui a beaucoup plus de recul. Et pour ce qui est l'auteur, c'est que de toute façon, dans le roman, il y a quelque chose qui... Le personnage est lui-même l'auteur de tout le roman que Tristan Garcia a écrit. Le personnage de la septième partie est le prétendu auteur de tout ce qui a précédé dans ce roman. Et que si on cherche aussi la voix de Tristan Garcia s'amusant avec cette situation qui est quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même quelqu'un qui ne peut pas mourir, donc qui vit sept vies différentes. Donc c'est un argument de science-fiction, c'est quelque chose de complètement fantaisiste. Nous, aussi, enfin, dans le travail, il y a comment incarner tout ça en y croyant et par moments en doutant, en n'y croyant pas, en s'amusant du dispositif qui est fabriqué sous les yeux du spectateur. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Enfin, en fait, c'est plein de postures, c'est pas des postures d'ailleurs, plein de positions différentes pour l'acteur. Mais par exemple, quand il y a un problème technique, ça nous est arrivé, on a une vidéo qui n'a pas fonctionné, mais Pierre-François, qui avait fini sa partition, qui était sorti, est revenu sur le plateau et a raconté la vidéo aux gens. Eh bien, ça n'a pas amoindri le spectacle. C'est-à-dire, il l'a fait au présent, il a dit « Vous auriez dû voir ça ». C'est dommage que vous n'ayez pas cette fin, donc je vais vous la raconter. Et d'une certaine manière, c'était possible. Et on a cherché à ce que, d'une certaine façon, tout est possible dans cette représentation. Donc on peut passer de statut, enfin, il peut passer de statut différent d'instant en instant. Ça n'est jamais la même chose tous les soirs, puisqu'on essaye de garder cette narration absolument au présent. Et c'est pas... on le dit souvent, ça, au théâtre, qu'on essaie d'être au présent. Mais là, c'est un travail... on y est tous les jours et on continue à réanimer ça absolument. Et voilà, en tout cas, tous les statuts sont possibles. Et on ne s'enferme jamais dans « je représente le personnage et rien d'autre ». Pour moi, ça n'existe pas. Et peut-être aussi, en travaillant sur le roman... c'est parce que je travaille sur du roman que ça ne peut pas exister de la même manière que dans l'incarnation d'une pièce avec des rôles et des personnages prédéfinis avec des échanges de répliques. Je ne sais pas, il y a comme une valeur poétique qui doit pouvoir se rajouter, alors poétique au sens large, qui doit pouvoir se rajouter chaque jour dans l'instant. Et le chemin ne sera jamais le même.
Oui, une question que je me pose qui est un peu pratico-pratique, mais un metteur en scène, il y a quelques années, m'avait dit la grande révolution du théâtre, une des grandes révolutions du théâtre, ça sera la sonorisation, ça sera le son, c'est la sonorisation des comédiens. Et je me demande si effectivement le fait de... Alors, comme j'ai vu la captation, il est sonorisé ?
Non.
Il n'est pas sonorisé.
Non. Voilà,
vous êtes le contre-exemple absolu. Voilà. Alors ici, à certains moments, il se retrouve dans sa cage en verre, et là, le son est travaillé.
Voilà, hein, c'est uniquement les moments de renaissance. Parce que le moment où il renaît, il est un tout petit peu sonorisé.
Parce que cette sonorisation qu'on peut voir quasiment chez tous, chez Julien Gosselin, chez Sylvain Creusevaux, chez Jean Bellorini quand il met en scène Proust, elle permet des régimes d'énonciation différents. Et elle rejoint peut-être cette vertu du romanesque qui est... Le roman, c'est ce qu'on lit dans l'intimité chez soi. au fond de son canapé ou dans son lit. Et là, tout à coup, la sonorisation permet cette intimité, me semble-t-il. Donc, est-ce qu'elle n'a pas servi aussi la cause du roman surgissant et, ou déferlant sur les scènes du théâtre ?
En tout cas, c'est vrai que ça a été une vraie révolution, je pense. Je pense qu'un théâtre comme le théâtre de Pommerat,
par exemple,
sans cette invention technique, n'existerait pas sous cette forme et que ça... C'est une grande partie, en effet, de l'ouverture des interprétations, enfin de l'éventail d'interprétations des acteurs. Je pense que pour eux, c'est une libération ou en tout cas une gamme de plus ou des nuances de plus qui s'offrent à leur jeu. En même temps, je suis très intéressée par le fait de choisir ce qui est maintenant une contrainte, c'est-à-dire ne pas utiliser le micro. Je trouve que ça devient presque, de nos jours, un choix fort au théâtre.
Presque politique,
archaïque.
Non, mais se donner une contrainte, quand on est justement dans ce parcours, dans cette recherche d'une voix, se dire ce sera la vraie voix et pas une voix habillée ou enfin... guidé par la technique.
Bah moi c'est une mode hein, aussi c'est devenu un chemin obligé et quand on le voit enfin quand on travaille tout le temps dans le théâtre et qu'on voit sur certains spectacles ça a apporté énormément et ça a permis d'inventer d'autres façons de jouer. Ça a permis aussi que, par exemple, dans les écoles, plus personne, les jeunes gens qui apprennent le métier d'acteur ne savent plus placer leur voix, parce qu'on se dit, de toute façon, il n'y a plus besoin, il y aura des micros HF. Bon, voilà, on s'est questionné, nous, sur le fait de sonoriser l'acteur ou pas. Mais je pense que pour que ce soit le plus immédiat possible avec le public... On a souhaité, et lui et moi, enfin, et l'acteur et moi-même, ne pas avoir cette médiatisation. Et on n'est pas aussi. J'ai pas envie de faire du cinéma, d'atteindre la perfection du cinéma que donne un peu le micro-HF. J'ai pas les mêmes obsessions que. Bon, on revient à Gosselin, par exemple. C'est vraiment. Il y a une qualité qui est une qualité quasi cinématographique, même dans le théâtre. Quelque chose qui... Et peut-être c'est pas du tout mon univers, en fait. Moi, j'aime les acteurs qui... je sais pas comment vous dire, qui ont une vraie... D'abord, une vraie empreinte vocale, et j'aime j'aime l'histrion aussi, si je pousse plus loin. J'aime les acteurs avec des voix. Et voilà. Et on peut très bien travailler l'intime tout en ne forçant pas. En ne forçant pas la voix, en n'étant pas sonorisé, mais c'est difficile. C'est difficile, il faut maîtriser les paramètres des salles dans lesquelles on joue, il faut limiter les jauges de public, voilà. Alors c'est...
Mais, oui,
mais ça reste pour moi plus... Enfin, je ne sais pas, j'avais envie que ce soit très vivant et pas... pas comment dire, médiatisé.
Il n'y a pas ce filtre-là.
Voilà, ce filtre-là, ouais.
Et je pense qu'en effet, ça rejoint la question de la présence, parce que j'ai lu récemment une interview de Gosselin qui disait que lui, ce qu'il cherchait justement, c'était à lutter contre le présent. Qu'en fait, ses choix, par exemple, de roman, d'utiliser une matière romanesque, c'est aussi le choix du passé. De dire ça a existé, mais ce n'est plus au présent. De même, ces choix de vidéo, la vidéo, dit-il, elle donne le sentiment qu'on n'est plus tout à fait au présent. Et je me demande si le micro HF aussi, finalement. C'est-à-dire que toutes ces techniques qui, en effet, servent à démultiplier l'univers scénique et rendre compte de la complexité des univers romanesques, en même temps, et c'est une chose qu'apparemment Gosselin revendique très très nettement, c'est moins de présence. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. Lutter contre le présent du théâtre. C'était assez paradoxal, mais je pense que c'est vrai. C'est vrai que la vidéo, à la fois, nous enveloppe, nous emporte, nous ouvre l'espace, etc. Et en même temps, elle dit, c'est ailleurs, c'est avant, c'est pas au présent.
Il y a aussi ce phénomène, on revient là au tout début de la conversation, vous disiez, Marie-Christine, que vous, c'est en lectrice que vous étiez venue au théâtre, le spectateur qui vient voir, disons, une adaptation, parce qu'on appelle souvent ça adaptation, je ne sais pas, d'un roman de Dostoïevski, de Bulgakov, d'un travail à partir de Proust, de La recherche du temps perdu, c'est un lecteur qui se déplace en plus du spectateur. C'est-à-dire que si ça a marché comme ça pour vous, ça marche aussi pour le public. Et quand on se retrouve, par exemple, face à un spectacle de Christiane Loupa, en polonais surtitré, on est autant lecteur que spectateur, et c'est extrêmement agréable. En fait, c'est très étrange, d'ailleurs, quand il s'agit d'un roman qui est travaillé par Loupa, on ne perd rien de ce qu'on ne voit pas sur le plateau, et on ne perd rien de ce qu'on n'arrive pas à lire parce qu'on n'a pas le temps. On est pris dans une drôle de temporalité.
C'est vrai, oui. Et d'ailleurs, bon, je repars sur Gosselin, mais bon, parce qu'il met beaucoup d'écrits aussi dans ses spectacles.
Oui.
Donc, ce qui est aussi une façon de rappeler, ça a été écrit.
On a travaillé avec le même vidéaste.
Donc,
les textes.
Donc, c'est aussi une façon de convoquer le lecteur. Ces spectacles qui font appel à la littérature, qui font appel au récit, qui font appel au roman.
Je suppose que oui, en termes de d'attrait pour le public, ça joue forcément. Enfin, on peut avoir envie. Oui, moi, j'ai sans doute envie aussi d'aller voir. Non, pas forcément le château de Kafka, parce que je voudrais ou le procès, parce que je voudrais qu'on me raconte encore une fois cette histoire qui déjà est terrible à lire. Donc, mais par contre, oui, je pense que les gens ont envie de voir qu'est-ce qu'on fait avec le procès de Kafka, ou bien qu'est-ce qu'on fait avec Proust, qui est peut-être un défi encore plus grand, ou qu'est-ce qu'on fait. Avec Dostoïevski, même si ça, c'est bon. Dostoïevski est un des auteurs les plus montés au théâtre, donc c'est moins une surprise, disons.
Mais moi, je pensais à cette question parce qu'on est dans une époque où on nous parle beaucoup de notre besoin, alors d'un besoin politique et d'un besoin qui serait individuel et collectif, de roman national. On aurait besoin de récits. On aurait besoin de se réapproprier les romans qui sont les nôtres. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où l'irruption du monde virtuel ne crée pas forcément de continuité dans les récits. On est face à du discontinu, beaucoup. Donc le théâtre qui va vers le récit, qui, même si ce récit est lui-même éclaté, il affirme quand même une forme de continuité. Un sujet qui va aller d'un point A vers un point Z, même si ce point Z est improbable, ce qui est le cas dans la septième, me semble-t-il. Mais il y a un sujet. Et est-ce qu'on n'a pas besoin de ça aussi au théâtre ? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on va chercher quand on va voir ces grandes aventures, ces grandes épopées qui peuvent être très échevelées et qui font soudure d'une certaine manière. Qui soude, qui coagule.
Qui souderait plus que, oui. que les textes de théâtre.
Ouais. Je sais pas, c'est une question que je vous pose.
Ben, moi, je peux dire que oui, bien sûr. C'est une des principales choses, même. Alors, je dirais pas pour le spectacle avec le livre de Tristan Garcia, c'est pas sa langue qui m'a passionnée. C'est son art de jouer sur le réel avec une espèce de fantaisie débridée que je recherchais depuis assez longtemps. Mais par exemple sur tous les autres textes que j'ai montés, c'est la langue. Parce que c'est ça, qu'est-ce qui nous meut au théâtre ? C'est ça. C'est comment quelque chose. Pour moi, c'est organique, la langue. Et le précédent, c'était sur Clarice Lispector, c'est la langue de Clarice Lispector que j'avais envie de travailler. Et avant, c'était Virginia Woolf, avant, c'était Colaubert, Daniel Colaubert. À chaque fois, c'est une langue. Et c'est le plaisir du compagnonnage avec cette langue et la beauté de cette langue. Et peut-être que cette beauté-là, souvent, je ne la trouve pas dans les textes de théâtre.
Moi, je voulais savoir ce que vous pensiez, le rôle de la lumière, le choix dans le spectacle de la lumière. Est-ce que c'est important pour vous ?
J'ai passé ma vie à faire de la lumière. Oui. Alors, comment vous dire ? Bien sûr que oui. Là, c'était pas trop l'occasion de parler de ça, mais bien sûr que oui. Bien sûr que moi, les images intérieures que je peux avoir quand je lis et quand je fais ce trajet vers un probable spectacle, bien sûr que je vois toujours. Je suis une visuelle et la lumière a à voir avec. Ben là, on pourrait en parler pendant des heures, mais alors à voir avec la métaphysique, à voir avec enfin la peinture, à voir avec l'aveuglement, à voir enfin on pourrait donc forcément, bien sûr.
Mais moi, je voulais prolonger. Je vous redonne la parole, monsieur, tout de suite. Est-ce que justement ça génère des mises en scène singulières ? Est-ce que ça Le fait que ce soit effectivement la langue du récit, la langue du roman et pas la langue de théâtre qui est travaillée par ces metteurs en scène, est-ce que ça génère au plateau des gestes particuliers ? Est-ce que ça vous provoque peut-être plus ou différemment ? Est-ce que ça vous déplace ? Et ça, c'est une question que je vous pose, Marie-Christine, mais que je vous pose aussi, Joël, vous qui avez étudié tous ces travaux de metteurs en scène. Les metteuses en scène.
Ben, en fait, oui, justement, quand j'ai abordé le chapitre théâtre et littérature, j'ai très vite dit il y a tellement de façons de faire du théâtre avec la littérature que je ne vais pas en parler. C'est trop foisonnant, c'est trop personnel aussi, je pense. Il y a une telle infinité de gestes, je dirais même pas adaptation, mais d'appropriation, de restitution, de transposition, que j'ai renoncé d'emblée à essayer d'en faire une quelconque typologie. Ça me paraît difficile de dire le fait d'adapter un roman incite à, sinon à dire de façon très générale, à une grande liberté, une immense liberté. Mmh. Mais à part ça, donc je me suis hâtée de me déporter vers d'autres postures que le théâtre avec la littérature.
Non, mais ça pourrait. Vous parliez d'images. Je ne sais pas de quelle manière ça intervient sur la création des images. De quelle manière ça produit plus d'images, moins d'images, une seule image
Moi, je trouve que le roman crée énormément de paysages intérieurs qui varient en plus en fonction de l'état dans lequel on est dans la lecture. Et ça, c'est une matière incroyable pour ensuite travailler sur scène. C'est-à-dire tous ces paysages intérieurs. On a plus de mal, parfois, sur une pièce de théâtre, à inventer ses propres paysages intérieurs et ensuite les projeter sur un plateau. Pour moi, c'est plus difficile. Alors que le roman, il est plein de paysages intérieurs. Et je n'ai pas les mêmes le matin, le soir, le lendemain. Et ça, c'est une richesse dans laquelle on va puiser pour jouer, pour décider, pour faire des choix, pour trouver la dramaturgie, pour trouver le fonctionnement de la représentation, par exemple. C'est tellement...
Et vos paysages entrent en conflit ou en contact avec ceux de l'acteur.
Mais bien
aussi.
Sûr, mais bien sûr. Donc, et que ce soit conflit ou que ce soit harmonieux, ça produit quelque chose qui va être la singularité de cette rencontre-là.
Et je voudrais qu'on termine là-dessus parce que c'est une question que je me pose chaque fois que je vois des acteurs comme Pierre-François Garrel qui font ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est assez inouï ce qu'il accomplit. Dans quel état est l'acteur à la sortie de la représentation ? Parce que je me pose la même question sur les acteurs de Julien Gosselin, sur les acteurs de Christiane Noupin. Enfin, il y a un don de l'acteur qui est tel qu'on se demande effectivement à la fin comment ils ressortent de ça. Est-ce qu'ils sont complètement essorés, rincés
Oui, c'est comme un sportif, c'est-à-dire c'est comme à la fin d'un marathon, sauf que le marathon, il faut le faire tous les jours. Voilà. Mmh. Mais c'est exactement comme ça, c'est-à-dire c'est lessivé et immédiatement dans la sensation s'il a été vraiment, vraiment présent au maximum ou pas. C'est la chose qui me dit toujours en sortant, C'est ce soir, j'étais là du début à la fin, je ne me suis jamais absentée. Ouais. Parce que quand on est seul sur le plateau, c'est la difficulté, c'est de à certains moments, on peut s'absenter. Et il n'y a pas de partenaire pour récupérer. Et voilà, mais c'est lessivé. Mais comme un sportif bien entraîné, le lendemain, il peut y retourner. Et là, au fur et à mesure, d'ailleurs, il est moins fatigué qu'au début.
Là, ça va donc être en salle.
Sera à Gabili.
C'est à Gabili.
Voilà, mois de janvier, entre le 10 et le 15 janvier, je crois.
Alors, je ne sais pas si vous avez réservé, mais vraiment, je pense que c'est à ne pas rater. Hein. Si ça fait partie de votre programme du mois de janvier ou pas, mais je vous incite vraiment.
Venez nous voir.
Allez-y, vous allez vivre un grand moment. Hein. Non, mais c'est vrai, vous allez vraiment vivre un grand moment. Bien, merci beaucoup à vous d'être venu nous retrouver. Mille merci à vous également, Joël et Chambon et Marie-Christine Soma, d'avoir fait la route jusqu'ici.
C'était bien.
Retrouvez tous nos podcasts sur tnb.fr.